première fois qu'il parle directement à Aaron. La première fois, il parle en même temps à Moshe et à Aaron, tous les deux. Et il leur dit les mots. Ça veut dire, ce que je vous dis là, c'est fait pour être retransmis. Vous allez les Amira, c'est-à-dire pour que vous le disiez à nouveau. Et on nous dit que cette parole-là, elle a été d'Hachem à Moshe et à Aaron. Elle a été dite en Mitzraïm. Elle a été dite en Égypte. Ça veut dire, cette parole, elle s'adresse indirectement aux Bnei Israël qui sont en Égypte et qui sont encore esclaves de Paro, même s'ils ne travaillent plus depuis les Makot, c'est-à-dire ça fait 1 an qu'ils ne travaillent plus, mais formellement, ils sont encore esclaves. Vous vous souvenez qu'ils vont sortir de leur statut d'esclave uniquement au moment où, où Paro va définitivement les, enfin, il va les chasser après après la plaie de la mort des premiers-nés, où il va virer tout le monde. Et à ce moment-là, Moshe va dire, mais non, on ne partira pas tant que tu n'auras pas donner au Bnei Israël un document certifiant qu'ils ne sont plus tes esclaves. C'est ce que nous disons dans la Haggadah. Ilu si Hachem nous avait pas sortis de Mitzrayim, Aré nous, nous serions, nous, nos enfants, nos petits-enfants, on serait encore esclaves de Paro. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Mais c'est un peu difficile à dire. Parce que il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, même dans le Nil. Et entre-temps, il peut y avoir, il y a eu des révolutions, il y a eu des changements, etc. On aurait très bien pu s'en sortir, disons qu'on soit parti. Oui, c'est juste. Mais formellement, un esclave qui s'enfuit, pour les goyim, eh ben c'est toujours un esclave, c'est un esclave qui est en fuite. Donc, un descendant actuel de Paro, bon, supposé qu'on trouve un descendant, il pourrait dire, les Bnei Israël m'appartiennent. Vous m'appartenez tous. Évidemment, il pourra rien en faire parce qu'on va, il n'y a pas beaucoup de volontaires, probablement, qui voudront retourner. Mais, formellement, on sera pas libre. On appartiendrait encore à Paro. Et je vous rappelle que les Bnei Israël, à l'époque de Pourim, il y avait eu la grande question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas instauré à Pourim de dire le Hallel? Parce que le miracle de Pourim, eh bien, est encore plus grand que celui de la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, on a passé de l'esclavage à la liberté, mais à Pourim, on a passé de la mort à la vie. On a été condamné à mort et on a survécu. Donc, si on dit le Hallel à Pessah, on devrait dire le Hallel à Pourim. Et une des réponses, ça a été de dire, on ne peut pas instaurer de dire le Hallel à Pourim, parce que la première phrase du Hallel, c'est Hallelu Avdei Hashem. Louer Hashem, serviteur d'Hashem. Et les Chachamim, à cette époque-là, Mordechai et autres, ils ont dit, on ne peut pas dire de nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des serviteurs d'Hachem. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des serviteurs, des sujets d'Achashverosh. C'est vrai qu'Aman est mort, mais les Juifs, ils sont encore sujets de l'empereur de Perse. Et on voit que ça empêche d'être avec Eved Hachem. Mais c'est vrai qu'ils sont sujets à l'empire de Perse, mais la reine est juive et le grand vizir est juif. Et malgré ça, hein, on ne peut pas dire qu'on est Eved Hachem. Donc, c'était vraiment très important. Donc, quand on dit dans la Haggadah, s'il ne nous avait pas sortis, on serait encore, ça veut dire, Bichlal, on serait pas encore devenu Eved Hachem. On ne peut pas être Eved Hachem si on dépend de quelqu'un d'autre. Oui, si Parole ne nous avait pas donné un document comme quoi nous ne sommes plus ses esclaves. Il nous a libérés. Moïse a dit, on ne part pas tant que tu ne déclares pas ouvertement que nous ne sommes plus tes esclaves. OK? Donc, cette parole, elle a été dite en Égypte à des gens qui sont encore esclaves. C'est ça qu'il faut entendre. C'est la première mitzvah qui est donnée au Bnei Israël en tant que corps. Jusqu'alors, il y avait une mitzvah qui a été donnée à Avraham Avinu. Il y en a une seule, hein. C'est quoi la mitzvah qui a été donnée à Avraham Avinu? La Mila. Et ses descendants ont fait la Mila parce qu'elle avait été ordonnée à Avraham Avinu. Jusqu'à Matan Torah, quand on fera la Mila, on fait la Mila, c'est à ce titre-là. Mais à partir de Matan Torah, on ne fera plus la Mila parce qu'Avraham l'a faite, mais parce que dans les parchiot qui vont venir juste après, dans Tazria Metzora, là-bas, il y a la mitzvah de Mila. Ou bien Yom HaShemini, Yimol. Et c'est de ce Yom HaShemini, Yimol, que nous faisons la Mila. On ne fait pas la Mila à cause d'Avraham Avinu. Ce qu'on fait avec Avraham Avinu, c'est le Brit qui est attaché à la Mila. Mais la Mila, on l'a fait à cause d'un passouk qui est écrit dans la Torah et qui concerne le peuple d'Israël. Ou bien Yom HaShemini, Yimol. Le 8e jour, tu feras la Mila. Donc la parole s'adresse à des gens qui sont esclaves. Or, la caractéristique d'un esclave, essentiellement, c'est quelqu'un qui a, c'est vrai, bon, il n'a pas de responsabilité, mais parce qu'il n'est pas maître de son temps. Que même un esclave qui est très très bien traité, qui gère la maison et tout ce que vous voulez, mais a priori, il n'est pas maître de son temps. C'est-à-dire que si lui, il a décidé que, tiens, ce matin, je m'occupe des fraisiers, et si son maître il dit non, aujourd'hui, on s'occupe des pommiers, eh bien, il va s'occuper des pommiers. Il n'est pas maître. Parce qu'il est esclave. Or, justement, qu'est-ce qu'elle dit, cette mitzvah? Cette mitzvah, c'est, voilà le contenu, Achodesh azeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem, le Chodesh Hashana. Achodesh Hazeh. Ça veut dire quoi le mot Chodesh ici? En hébreu moderne, Chodesh, ça veut dire un mois. Chodesh Nissan, Chodesh Kislev. Mais ici, ça veut dire quoi? Achodesh Hazeh. Ce Chodesh-là, il est Rosh Chodesh. Il n'y a pas un mois qui est Rosh Chodesh. Ça veut dire quoi, Chodesh ici? C'est le renouveau de la lune. Ce Chodesh, ça veut dire Hadash. Ça veut dire renouveau, nouveau. Donc, ce renouveau de la lune. Donc, Azé, ça veut dire quelque chose qu'on montre du doigt. Chodesh Azé, ça veut dire on est le premier jour du mois. Ou juste avant, quoi, et on voit le premier, la première trace de la nouvelle lune. On voit un mini, mini croissant de lune. Et on dit, ce croissant de lune, là, quand tu le vois, ce renouveau-là, il sera Roche, celui-là, celui du mois dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le mois de Nissan. Ce mois de Nissan, ce Rosh Chodesh sera le premier des Rosh Chodashim, de tous les premiers de mois, pour tous les mois de l'année. Celui-là, ce Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier Rosh Chodesh de tous les parmi tous les rochers chodashim des mois de l'année. Donc ça veut dire, c'est le premier mois. Le mois de Nissan sera votre premier mois. Alors, jusque-là, c'était quoi le calendrier jusque-là? A priori, bien qu'on n'en ait jamais rien dit, le calendrier, c'est le calendrier que nous avons encore. Enfin, en tout cas, nous, on vit avec deux calendriers. Et on vit avec un paradoxe parce que dans la Torah, c'est marqué ce qui va jouer le rôle de Rosh Hashanah. Pas marqué Rosh Hashanah, mais c'est le jour de Yom HaZikaron, là. Bon. C'est Rosh Hashanah. C'est le premier Tishri. Tishri, c'est quel mois? Dans la Torah, il s'appelle comment ce mois? Le mois de Tishri. Dans la Torah, il s'appelle pas Tishri. Tishri, c'est un nom perse. C'est le nom perse des mois. Il s'appelle comment? Il s'appelle Chodesh HaShevi, le septième mois. C'est normal, n'est-ce pas? Le premier mois de l'année, Rosh Hashanah, ça a lieu le septième mois. Vous êtes juif pour un truc comme ça. Pourquoi c'est le septième mois? Parce que depuis Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Tishri, c'est le septième mois. Donc Rosh Hashanah a lieu le septième mois. Mais nous, on a un autre calendrier. On a deux calendriers en parallèle. Et que en Israël, les gens qui veulent respecter aussi le calendrier juif, il y a deux dates sur les lettres. Me rappelle quand j'enseignais à Tel Aviv, le courrier était toujours doublement daté, avec la date juive et la date goy. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Ici, c'est cette mitzvah-là, c'est l'achem, c'est vous. C'est vous qui allez décider de ce nouveau mois. Alors, regardez Rashi. Rashi dit, sur le Achodesh Hazeh, le Rashi sur le deuxième verset. D'abord, Rashi rapporte ce qu'on appelle une Mechilta, c'est un Midrash Halakha. Bon, comme il y a Sifri, Sifra, Mechilta. Mechilta, c'est le Midrash Halakha du Sefer Shemot. Donc Rashi le cite. Réo Levana Bechidusha. Il lui a montré, voilà, on comprend pas grand-chose ici, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moshe ne comprenait pas ce que Hachem lui voulait. Et donc Hachem lui a montré, c'est, il lui a montré du doigt. Il lui a montré la lune dans son renouveau, c'est-à-dire le nouveau croissant de lune. Vers Marlo, et il lui a dit que chez Ayareach Mitradesh, Yelecha Rosh Chodesh. Quand la lune se renouvelle, tu auras Rosh Chodesh. Vous voyez d'ailleurs dans le même verset, on a utilisé deux termes différents pour décrire la lune, Levana et Yareach. Les deux veulent dire la lune. L'avantage, c'est qu'il y en a un qui est masculin, l'autre qui est féminin. Donc ça c'est, mais en mikra yotse mide pshuto. Alors Rashi dit, voilà, al chodesh Nissan amarlo, sur le mois de Nissan il lui a dit, zeyeh rosh, ce mois-là sera le premier, le seder minyan achodashim, dans l'ordre de la numération, de l'énumération des mois. Les mois dans la Torah, ils n'ont pas de nom. D'accord? Mais ils sont comptés à partir de celui-là. Le numéro 1, c'est celui du mois. Il se trouve que c'est le mois dans lequel nous sommes sortis d'Égypte. C'est le mois de la naissance du peuple juif. Mais le mois ne commence pas avec la naissance. Bon, le mois commence le premier, et Pessah, qui est la naissance, la sortie, c'est le 15. Cheyé, donc, Iyar Karoui Sheni, le mois qu'on appelle nous Iyar, dans la Torah, il sera appelé deuxième mois. Le mois de Sivan sera appelé troisième mois. Il n'a pas continué, mais on a compris. Azé, à Chodesh Azé, Nitkasha Moshe al Molad Alvana, Be'ezu Shiur, Terae, Vetiyeruya le Kadesh. Moshe Rabbeinu avait visiblement de la difficulté. Il ne savait pas quelle grandeur du croissant lunaire il fallait avoir vu pour que ça s'appelle Rosh Chodesh. La vérité, je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire, parce que si on le voit, on le voit, si on ne le voit pas, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il voulait? Ça veut dire quelle grandeur on va voir? Regardez, je vais dire 1 cm, mais. Peut-être quelqu'un nous verra ça avec. Ça veut dire quoi 1 cm? Moi, je vois 1 cm, mais ça ne veut rien dire cela, la croix dans la lune. Et ça, peut-être, on ne voit pas, selon l'angle où on est, on ne voit peut-être pas la même. C'est difficile de comprendre. Bichra, je ne comprends pas ce qui était difficile pour Moshe. La seule chose que je me suis dit, je n'ai pas de source, je pense qu'une mitzvah, c'est toujours quantifié. Et donc, mon cher ami demande quel est le chiour. Il faut manger de la matzah, alors c'est un kezaït. Pour boire du vin, il faut un revit. Les choses sont toujours quantifiées dans la Torah. Tu me dis, je vais déclarer, quand tu vois la nouvelle lune, c'est quoi la nouvelle lune? A priori, la nouvelle lune, c'est au début. C'est pas quand il y a la pleine lune. Elle s'appelle pleine lune, donc c'est pas la nouvelle lune. Oui, il faut attendre. Qu'est-ce qu'il faut voir? La priorité qu'on le voit, c'est on l'a vu. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est pratiqué par la suite. Dès qu'il venait, puisqu'on allait interroger les témoins. Alors, c'est pas marqué dans la Torah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça incombe à Moshe. Donc, ça va incomber au Sanhédrin, plus tard, beaucoup plus tard. Le Sanhédrin va recevoir des témoignages de témoins, toujours deux témoins, qui disent, nous avons vu la nouvelle lune. Et où qu'ils soient, ils vont foncer à Yerushalayim pour dire, on a vu la nouvelle lune. Et ils vont foncer, le cas échéant, ils vont être mechallel Shabbat. Quand ils foncent, ils vont. Mais le type qui a vu la nouvelle lune dans le Galil, bon, et il y a sûrement des gens qui ont vu la nouvelle lune à côté du tribunal qui vont arriver avant eux. Néanmoins, à un moment donné, Rabbi Akiva voulait arrêter les gens à l'aude, il leur a dit, écoute, ça vaut pas la peine de continuer. On a dit, attention, si tu fais ça, ils viendront plus cette année. Tout le monde venait, il y avait un petit rafraîchissement. Au moins, ils ne sont pas venus pour rien, quoi. Et bon, on leur faisait du kavod, parce qu'on voulait qu'ils reviennent. Et une fois alors, qu'est-ce qu'on faisait? Les témoins qui arrivaient, les premiers, on les cuisinait. C'est-à-dire, on regardait, on leur demandait, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu, il était comme ça, le croissant, il était comme ça. Alors, de toute manière, ils savaient calculer. On sait qu'on peut calculer la nouvelle lune. Donc, eux, ils le calculaient. Donc, ils savaient si c'était possible qu'ils l'aient vu. Après, peut-être qu'ils sont confondus, ils ont confondu ça avec un petit nuage. Tout le monde voulait absolument avoir vu la nouvelle lune. Alors, c'est possible que s'il y a eu un joli nuage qui avait une forme approximative, j'ai vu la nouvelle lune. Peut-être que c'était encore trop tôt. Et donc, une fois qu'on s'était convaincu qu'ils avaient vraiment vu la nouvelle lune, alors le Rosh HaSanhedrin, il proclamait Mekoudash. Le nouveau mois est sanctifié, il commence maintenant. Bon, il pouvait commencer à 10 h du matin ou à 3 h de l'après-midi. Après, il y a eu des problèmes autour de Mincha. Quand il arrive à Mincha, comme il y avait des problèmes pour savoir est-ce que c'était Rosh Chodesh aujourd'hui ou est-ce que c'était. Donc, il savait plus. On n'a pas le même Shir Shel Yom. On n'a pas le même cantique qu'on chante quand on apporte le Korban Tamid. Et le Vim, ils doivent chanter. Alors, ils se sont brouillés les pédales parce que ils savaient pas, c'est Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il faut chanter, etc. Alors, pendant un moment donné, à un moment, ils ont décidé que on s'arrête à tel et tel moment dans l'après-midi, on reçoit plus les témoins. S'ils arrivent, même si on pourrait les recevoir, on n'est pas encore à la Shkia, mais on les ramène, pour pas s'embrouiller dans le, on les reçoit plus. Bon, alors après, il y a eu des épisodes comme ci, comme ça. Et une fois que lui, il avait proclamé ça, alors il y avait tout un système de communication. Il fallait faire savoir à tout le monde la nouvelle lune, que le mois était commencé. Alors, il faisait des signaux de feu. On se mettait de colline à colline, etc. Mais après, il y avait des rigolos qui ont fait des faux feux. Donc, ça marchait plus. Donc, il fallait envoyer des cavaliers, il fallait envoyer des messagers. Les messagers, ils arrivaient jusqu'où ils arrivaient. Et c'est parce qu'ils n'arrivaient pas toujours suffisamment tôt partout qu'on a dû faire. Donc les gens pensaient, non, ça doit être Rosh Chodesh, ils ont décidé de faire Rosh Chodesh pendant 2 jours. Ils faisaient 2 jours de Rosh Chodesh. Si on faisait 2 jours de Rosh Chodesh, okay, pas terrible parce que ça ne change pas grand-chose. Par contre, s'il n'était pas arrivé à temps, on faisait 2 jours de Pessah, 2 jours de Soukhot, 2 jours de Rosh Hashanah. C'est une autre chose. Rosh Hashanah, c'est une autre chose. Et donc, du coup, il y avait une différence entre Eretz Israël, où c'est sûr que les messagers étaient arrivés, et puis Babel ou d'autres endroits, ou Paris, ou là, où les messagers n'étaient pas encore arrivés. Et donc ça s'est resté. Bien qu'aujourd'hui on sache pertinemment calculer et qu'on fait tout par calcul, il n'y a plus de Sanhédrin, on a fait un calendrier fixe et tout, mais on fait quand même 2 jours parce que peut-être un jour on reviendra à la fixation du calendrier par témoignage. Et aujourd'hui on n'aura pas de problème pour passer un coup de fil. Mais malgré tout, bon, on n'a pas voulu changer. Donc, on fait ça bien que ce soit pas nécessaire, on fait 2 jours. Yom Tov. OK. Donc, on leur a donné à eux une mitzvah de fixer le temps. C'est-à-dire, en fait, on leur a donné la mitzvah qui caractérise l'homme libre par rapport à l'esclave. À des gens qui étaient encore esclaves, on leur a donné la mitzvah qui caractérise les gens qui sont libres, à savoir la maîtrise du temps. Alors bien sûr, la maîtrise du temps qu'on a ici, c'est une maîtrise qui est très importante dans la mesure suivante. Les chagim, les moadim, c'est des rencontres avec Hachem. Et les rencontres avec Hachem, elles sont fixées d'ailleurs en général à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon. Le 15, le 15 Nissan et le 15 Tichri. À Shavuot, c'est compté différemment. Mais bon, les deux grandes fêtes de pèlerinage, elles sont fixées le 15. OK, c'est le 15 du mois. Donc, qui est-ce qui a fixé ça? C'est Hachem qui a dit. D'accord? C'est écrit dans la Torah, le 15, ce sera Yom Tov. Mais c'est nous qui disons qu'on sera le 15, puisque c'est nous qui fixons qu'on sera le premier. Donc ça veut dire que les rendez-vous du clan Israël avec Hachem ne sont pas des rendez-vous qui sont imposés par Hachem, tout seul. Mais finalement, ce sont des rendez-vous qui finalement sont fixés à la fois par rapport à Hachem, à la fois par Hachem, mais aussi par les hommes. Lui, il dit que c'est le 15, mais c'est nous qui lui dirons quand sera le 15. Vous voyez donc que c'est très important, parce que c'est cette choute-foute, cette collaboration entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël qui est partout à l'œuvre. Toujours ce travail, Hachem veut que nous soyons ses associés. Là, nous sommes associés là-dedans. OK. Ça, c'est la première mitzvah qui a été donnée au Bnei Israël. Mais immédiatement, dans ce premier mois, les psukim suivants, ils commencent à nous parler de ce qui va s'appeler Korban Pessah. C'est-à-dire le Korban Pessah que les Bnei Israël ont fait au sortir d'Égypte. Quand ils sortent d'Égypte, ils sont sur le seuil. Hachem leur a dit, vous allez faire un korban. Mais en vérité, dans le texte, c'est marqué que le 10 du mois, le 10, vous allez mettre de côté un agneau. Alors, c'est un agneau par maison, etc. Je ne vais pas entrer maintenant dans le détail. Vous allez mettre un agneau de côté. Vous allez l'attacher au montant de votre lit et vous allez laisser, on va s'occuper de lui, hein, mais vous allez laisser là 4 jours. Et le soir, l'après-midi du 14, l'après-midi du 14, on va se regrouper là. On s'était déjà regroupé d'ailleurs pour acheter la bête. Parce qu'on achète la bête par maison. Il y a un animal par maison étendue, c'est-à-dire la maison éventuellement, s'il n'y a pas assez de gens dans la maison, parce qu'il va falloir le manger. Et comme ça va être un corban, tous les corbanotes sont toujours à manger en un endroit précis, dans un laps de temps précis, et par des gens qui sont qualifiés pour pouvoir le manger. Le temps, l'espace et les personnes. C'est-à-dire, il y a les korbanot qu'il faut manger en un jour et une nuit, d'autres qu'il faut manger en 2 jours, enfin, un jour, une nuit, un jour. Où est-ce doit manger sur place, sur un Arbaït ou dans Jérusalem? Là, eux, c'est spécial. On ne parle pas encore du Korban Pessah qui nous concerne, mais leur Korban Pessah à eux, on leur a dit, vous allez maintenant faire la shrita de cet animal le 14 après-midi, et le soir, on va le griller. Le soir, vous allez le manger grillé. On mange tout. Et on grillait tout. C'est un problème si... Enfin, on pouvait même manger le. Est-ce qu'on a cuit, on a grillé avec ou non, ou sans guide à nacher? Parce que le guide à nacher, le nerf sciatique, là. Normalement, si on a grillé ensemble, alors il y a des problèmes, ça a diffusé, il y a le issue et tout. Certains disent qu'on a tout mangé. On n'a pas mangé le nerf, ça se mange pas. Mais on a mangé toute la viande, donc on a tout mangé. Donc, ils devaient manger ça. On leur a dit, vous allez le manger avec des matzot sur un lit d'herbes amères. C'est ça qui est écrit dans le menu. D'accord? Et vous allez le manger avec les chaussures aux pieds, les bâtons dans la main et les ceintures aux reins. Vous allez le manger quasiment à toute vitesse. Et ensuite, vous partez. Et pour pouvoir manger le Korban Pessah, il faut avoir fait la Mila. Donc, vous allez faire la Mila aussi. Donc, ils ont fait la Mila le soir, tout le soir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait faire la Mila? Parce que il y a ce fameux Midrash qui dit que quand le moment est arrivé où Hachem s'est dit, maintenant il faut que... Oh, il y a quelqu'un là. Alors, il est là, il y a un télé, ouais. Ah oui, il est là. Alors, quand Hachem a décidé que, bon, alors maintenant, il faut que j'accomplisse la promesse qui a été faite à Avraham Avinu. Avraham Avinu, je lui avais dit que tes enfants seraient esclaves, on les ferait souffrir, etc. Mais à un moment donné, j'ai aussi dit que le peuple qui les a fait souffrir, je vais le juger. Les nés d'Israël vont sortir avec un grand butin. OK. Et donc maintenant, il faut que je les fasse sortir. Mais même s'il y a une promesse qui a été faite à Abraham Avinu, néanmoins, il faut que les bnei Israël aient des raisons de les sortir d'Égypte. Il faut bien comprendre. Le clan d'Israël n'était pas dans des ghettos. Il n'était pas dans des camps séparés. Il était au milieu de la population. Il était esclave, mais il était au milieu de la population. La preuve, c'est que quand ils ont échangé des kélim, etc., c'était la voisine. Et donc, il fallait extraire les bnei Israël, les sortir. C'était pire qu'une césarienne. Une césarienne, l'enfant, il est séparé. Il faut le sortir, mais il est séparé déjà. Oui, il n'était pas séparé. La karatlo goy mi kerev goy. Un peuple au sein même d'un autre peuple. Et pour ça, il faut qu'il y ait une raison, il faut que la différence soit patente, quoi, entre eux et les Égyptiens. Et comme on dit dans la Haggadah, Veat, Erom, c'est complètement nul. T'as aucune. Le clan d'Israël n'avait pas de mitzvot. N'avait pas de mitzvot. Donc aucun mérite pour sortir. Il n'y a pas de mérite, il ne sort pas. Alors Hachem a décidé de donner au Bnei Israël deux mitzvot. Et quand ils vont appliquer les mitzvot qui leur ont été donnés, ça leur fera un mérite, par le mérite de ces deux mitzvot, ils vont sortir. Les deux mitzvot, c'est deux mitzvot qui ont à voir avec le sang, le dam, le sang. Alors, on pourrait se demander pourquoi avec le sang, justement. Alors, je ne sais pas exactement. J'ai pensé, quand Moshe est allé chez Paro, à un moment donné, Paro lui a dit, mais tu sais, si vous sortez maintenant, mes astrologues, ils ont vu le thème astral du clan d'Israël, et vous avez la mort en face, quoi. Vous avez la grande planète rouge, c'est la mort. Et donc, si vous sortez maintenant, le peuple à mourir. Alors je te conseille, n'y allez que les adultes, mais c'est les enfants ici, et femmes et les enfants. Moi je dis tout le temps, non? On part avec tout le monde. Mais ils partent avec tout le monde, mais il y a quand même, la Torah donne une certaine valeur à cette astrologie-là. D'ailleurs, cet argument-là, Mon cher Rabbi va l'utiliser pour défendre les bénis Israël. Quand Hachem va se mettre en colère contre les bénis Israël et qu'il va dire, je vais les détruire, etc. Mon cher a dit, ah, non, tu veux les détruire. Tu sais ce que les Égyptiens ils vont dire? Que comme tu n'étais pas capable de t'occuper d'eux dans le désert, en fait, tu les as sortis et tu vas les faire mourir, mais c'est exactement ce qu'il avait dit, hein. On avait la planète rouge et la mort du clan Israël en. Il n'a pas mis ça en exécution, la condamnation à mort. Donc, on voit, en tout cas, Moshe Rabbeinu l'a utilisé. Mais je crois que je dirais un peu autrement. Enfin, ça n'a rien à voir, mais je dirais que si effectivement il existe cette idée, alors qu'elle soit due à l'astrologie ou que Hachem, c'est Hachem qui a inspiré Paro, que Hachem voulait leur dire ce message, qu'en vérité, la sortie d'Égypte, c'est, d'une certaine manière, c'est la mort. Où ils vont aller? On voit bien. 7 jours plus tard, où ils sont? Devant la mer, les bêtes sauvages et l'armée égyptienne derrière. C'est la mort. Ils sont fichus. Sortir d'Égypte, c'est pas possible dans ce monde-ci. La Géoula, la sortie d'Égypte, c'est un truc surnaturel. Alors Hachem voulait qu'ils aient 2 mitzvot, et comme le sang était un sang de, sang qu'on leur a montré dans l'astrologie, quoi, dont il parlait, c'est un sang de mort, alors il y a une règle générale. C'est que si quelqu'un naît avec un mazal de sang ou avec un mazal d'une autre couleur, etc., il peut pas changer de mazal. Mais dans chaque mazal, il y a l'éventail complet de toutes les conduites, depuis la conduite la plus mauvaise jusqu'à la plus haute, la plus belle. C'est-à-dire, si on est d'un mazal rouge, c'est-à-dire quelque chose de sanguinaire, tu peux être ou bien un bandit des grands chemins, ou tu peux être un chirurgien, ou tu peux être un moëlle. Enfin, tu peux être un chirurgien, tu peux être un boucher, tu peux être un moëlle. D'accord? Tous ces gens-là, ils ont à voir avec du sang, mais de différentes façons, jusqu'à une façon très élevée. Faire la mila, c'est une grande affaire. Et la viande cachère, chérisée, c'est aussi important. Un chirurgien aussi, c'est un. Mais un assassin, un bandit des grands chemins, etc., bon, c'est aussi la possibilité. Il y a tout l'éventail. Mais ça, il y a la même chose dans tous les mazalotes, c'est-à-dire toutes les étoiles, en quelque sorte, on a tous les comportements possibles. Alors ici, mais on ne peut pas changer d'un mazal à l'autre. Alors en fait, comme on a révélé aux Bnei Israël que leur mazal, d'une certaine manière, c'était le mazal du sang, le mazal éventuellement de la mort, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont la mort, l'esclavage, etc. C'est ça leur mazal. Alors, on a pris le sang et on va faire du positif avec ce sang. C'est-à-dire, ça veut dire, on va changer. On va travailler dans le sang, mais on va tirer du côté positif. Alors, on va tirer de 2 côtés positifs. Il y a la Mila et il y a le Korban Pessah. Dans le Korban Pessah, normalement, dans un Korban, on fait la Shkita, on recueille le sang dans un gobelet et ensuite, il y a une Avoda qui consiste à asperger des gouttelettes de sang sur le misbère, différents endroits dans le misbère. Ça s'appelle Zrikat Adam, c'est-à-dire jeter le sang. Et c'est ça qui apporte dans un corban la kapara. Et une fois qu'on a fait ça, dans le cas d'un corban qui n'est pas un olah, qui est entièrement consumé, et où la viande est mangée, la viande est mangeable après cela. Pourquoi? Parce qu'on a fini la partie kapara, on a fait la kapara avec le korban, et maintenant on va manger la viande. C'est une avoda aussi, mais c'est une avoda qu'on ne peut faire qu'après la kapara. Alors normalement, on asperge Mais eux, ils n'ont pas aspergé, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de misbère. Mais à la place d'asperger, ils ont badigeonné les poteaux et les linteaux avec le sang. Donc on a. Alors, vous voyez, avec le sang, on a fait deux mitzvot un peu d'un autre genre. Il y a des mitzvot qui sont des mitzvot qui nous entourent, c'est-à-dire des mitzvot qui créent une ambiance. Là, c'est typique d'une ambiance, ça veut dire. On a badigeonné, on a, comment on fait quand on veut mettre une ambiance, alors on met une couronne, des guirlandes, on met des bienvenues sur la porte, etc. Là, on a badigeonné la porte, enfin, le chambranle de la porte, pour montrer que dans cette maison, on fait le Korban Pessah tel qu'il a été prescrit, et que ces gens, les gens qui sont dans cette maison sont des gens qui font confiance à Hachem. Et du coup, Hachem, quand il va voir, quand il va passer par-dessus les maisons qui sont badigeonnées. D'ailleurs, le badigeon, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Hein. C'est pas qu'Hachem, il a besoin des badigeons pour savoir ce qu'il en est. Hein. Mais c'est nous, mais ceux qui sont à l'intérieur, qui doivent savoir pourquoi eux, ils sont épargnés, alors que leurs voisins, chez les voisins, les premiers-nés, ils meurent. Donc ça, c'est une mitzvah qui crée un environnement de Kdusha. La mila, c'est, on paye de sa personne, quoi, quelque part. Ça, c'est, ça dévoile la personnalité de la personne, l'intériorité de la personne. Donc c'est, il y a toujours deux types. Donc on a ces deux types de mitzvot. Elles se retrouvent ici, justement, dans les deux mitzvot qui ont été données aux Israël pour sortir d'Égypte. Je suis en train de faire son truc, on va lui faire du fromage. Donc, on était dans cette, toujours dans cette paracha qui commence par l'histoire de la maîtrise du temps. On continue par le Korban Pessah. Tout ça, c'est ce qu'on va lire Shabbat. On a l'habitude de lire ça le Shabbat qui précède Rosh Chodesh ou alors, Shabbat Rosh Chodesh. La paracha s'appelle Achodesh parce que le premier mot, c'est Achodesh de la fête. Voilà, je voulais dire sur cette Achodesh. La paracha de Shmini, elle nous parle presque du même moment. C'est pas vrai. Elle parle de l'inauguration, j'ai parlé la semaine dernière, de l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan, en fait, le Mishkan était terminé quand? Quelle date? Il était terminé le 25 Kislev. Mais Hachem ne voulait pas inaugurer le 25 Kislev, il voulait inaugurer le 1er Nissan. Et le 25 Kislev, il a fait une manif. Et Hachem lui a dit, pour le consoler, il y aura de nouveau une inauguration qui aura lieu le 25 Kislev. C'est pas le cas. Et la deuxième inauguration du deuxième Beth Amikdash. Alors, cette inauguration, elle va durer 7 jours plus 1 jour. Pendant 7 jours, l'inauguration, la Hanouka, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on inaugure chez nous? Ben, on met les choses sur les rails. C'est-à-dire, on les fait comment? On les fait marcher. Et là, on a fait marcher le Mishkan. On a fait les korbanot qu'il faut faire. Mais il faut des hommes pour faire les korbanot. Alors celui qui a fait les korbanot pendant les 7 jours qui s'appellent les jours de Milouim, ces jours de l'inauguration, le Cohen qui était en service, c'était Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui jouait le rôle de Cohen. Cohen Gadol même. Et en particulier, mon cher Aménou, quand il jouait son rôle de Cohen Gadol, il n'avait pas besoin des vêtements spécifiques. Cohen Gadol, lui, il avait des vêtements blancs, très simples, quoi. Aaron, il a besoin de ses vêtements parce qu'il faut il faut impressionner la galerie. Pour que les gens comprennent que c'est important, etc. Donc, il avait des vêtements d'apparat pour le splendeur, le différet, pour la beauté. Je pense que mon cher Avenu, il impressionnait les gens suffisamment sans qu'il ait besoin de déguisement. Que Moshe ait été le Cohen pendant ses, Cohen Gadol pendant ses 7 jours, ça peut s'interpréter de deux manières. Vous vous souvenez qu'en réalité, Moshe Rabbeinu aurait dû être Cohen Gadol aussi. Il devait être roi, il a été roi, mais il devait être aussi Cohen Gadol. Il a perdu la Kehuna Gdola parce qu'il a refusé de sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Quand Hachem le lui a proposé, au buisson ardent, il lui a proposé. Et mon cher Abénou a dit non. Il a dit non pour deux raisons. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Oui. Une raison personnelle. Il voulait pas marcher sur les plates-bandes de son frère, son grand frère. Ça, on a déjà parlé. Et une raison qui tenait au clan Israël, qui est que sortir les Bnei Israël maintenant, c'est les sortir prématurément. Né Israël, dans la promesse qui a été faite à Abraham Avinu, il devait être en galoute pendant 400 ans. Et on était à 210, pas à 400. Donc Moshe l'a compris, Moshe me lui a dit, que si les Né Israël vont sortir maintenant, et les 190 ans, bon, il va y avoir des exils après. Les quatre exils ultérieurs, entre autres, servent à vivre le restant, les 190 ans qui manquaient. Mon cher Abénou voulait qu'Hachem donne la force au Bnei Israël de tenir encore 190 ans, que quand on sort définitivement. Et plus jamais de galoute. Et Hachem n'était pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas d'accord, mais il n'était pas d'accord. Et on est sorti quand même. Et finalement, Moshe, il est allé sortir les Bnei Israël quand même d'Égypte. Mais il a perdu la Kehuna. Alors maintenant, qui sait qu'il ne va pas être Cohen? Alors, il y a deux possibilités. Ou bien Hachem a voulu lui être Cohen Gadol, c'est une super expérience. Enfin, si vous avez déjà réfléchi, non. Enfin, imaginez, c'est un truc énorme, quoi. Alors, est-ce que Hachem a voulu faire un cadeau à Moshe? Tu ne seras pas Cohen Gadol, mais tu vas quand même expérimenter pendant une semaine la condition de Cohen Gadol. Donc, tu l'auras vécu, tu l'auras eu. Tu l'auras pas eu longtemps, mais tu l'auras eu. Ça suffit, voilà. Ou alors, peut-être c'est encore plus méchant, enfin c'est plus méchant, c'est que non seulement tu l'auras pas, mais c'est toi qui vas devoir introniser Aaron. Ce qui est assez logique, parce que qui est-ce qui va l'introniser si c'est pas lui? Aaron, il va pas se bombarder tout seul, Cohen Gadol. Donc Aaron et ses fils vont être installés comme Cohen Gadol et les autres, les quatre autres comme Kohanim, par Moshe Rabbeinu, le 8e jour, le Yom HaShmini. Ce Yom HaShmini, il y a une machloket Rashi et Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra. Parce que certains disent que Yom HaShmini, c'était Rosh Chodesh Nissan. Mais donc ça veut dire que les 7 jours ont commencé le 23 Adar. Bon, les 7 jours étaient en Adar et le 8e jour, c'est le premier Nissan. Et il y a d'autres qui disent non. Les sept jours ont commencé le premier Nissan. Et donc, Yom HaShemini, c'est à la fois le huitième jour de l'inauguration, mais aussi le huitième jour du mois de Nissan. Alors, bon, c'est une marloquette. Rashi d'un côté et Ibn Ezra de l'autre. De la Torah, c'est plutôt Mashma comme Ibn Ezra. Pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël ont fait Pessah, il y a une bande de gens qui ont dit, mais nous, on est impurs, on ne peut pas faire Pessah. Et Hachem leur a donné Pessah Sheni. Bon, alors vous ferez Pessah un mois plus tard. Ils ont fait Pessah, c'est-à-dire seulement le Korban Pessah, c'est tout. Il y avait du Hametz sur la table. Mais ils ont fait le Korban Pessah un mois plus tard. Mais ce huitième jour, c'était une très, très grande fête. Et au milieu de la fête, il y a eu un coup de tonnerre gigantesque, une super tragédie. Nadav et Abihu sont morts. Ils ont été brûlés par le feu d'Hachem. Les deux des quatre fils d'Aaron meurent. Et ces gens-là, ils ont été enterrés. Donc, il a fallu les sortir du Mishkan, où ils étaient, transportés, les enterrer. Ceux qui ont procédé à l'enterrement, ils ont touché les corps. Oui, ils ont... Donc, ils sont devenus tmeim. Mais si le huitième jour, c'était le premier Nissan, combien de temps ça dure l'impureté de contact avec la mort? Ça dure 7 jours. Donc, ils n'étaient pas impurs le 14 au soir. Le 14 au soir, ça fait longtemps qu'ils avaient tout le temps de se purifier. Par contre, si on dit que, comme Ibn Ezra, que le Yom HaShemini, c'était le huitième jour du mois de Nissan, 8 et 7, ça fait 15. Donc, le 14 au soir, ils n'étaient pas purs. Donc, si, ce qu'on pense, le standard, on dit que c'est eux, ceux qui ont dit on est impurs, mais c'est pas de notre faute, on a fait une mitzvah d'enterrer quelqu'un. Alors ça marche d'après Ibn Ezra, d'après Rashi, ça marche pas. D'après Rashi, il faut imaginer qu'il y a d'autres gens qui sont morts, qui sont morts durant le mois de, peut-être la veille de, peu importe quand, enfin, qui sont morts de telle sorte que ceux qui sont occupés de cela n'avaient pas eu le temps de se purifier de la Toumat Met, donc ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas manger pour rien que ça. Mais il faut inventer des gens dont on n'a jamais parlé, on n'a pas parlé. Tandis que pour Ibn Ezra, c'est clair, on sait très bien de qui il s'agit. Ceux qui, bon, sauf qu'on n'a pas l'impression qu'il y a essentiellement deux personnes. Là, ceux qui vont s'occuper de l'enterrement, c'est des neveux de Nadav et Abihu qui vont s'en occuper. Il n'y en a que deux, ils sont deux. Donc, quand on dit il y a des gens, ça, bon, deux, c'est un pluriel déjà, mais des gens, c'est intuitivement, on a l'impression qu'il y en a plus que deux. Donc, mais dans ce cas-là, ça va ni comme l'un ni comme l'autre. Donc, on est obligé de toute manière dire que c'est les autres, et du coup, là, il n'y a plus aucune preuve pour Ibn Ezra. Ibn Ezra, je ne crois pas qu'il apporte ça comme preuve. Voilà, donc c'est ça le Yom HaShemini. Bon, alors le grand morceau de la paracha qui parle de la Kedusha. Alors, c'est dans le chapitre 10, verset 3, je crois. Non, c'est le verset 1. Non. Verset 10, verset 1. Chapitre 10, verset 1. Vayikru, bnei Aaron, Nadav ve Aaron avait quatre fils, dont Nadav ve Abihu. Donc ces fils-là, ils ont pris Ishmachtato, chacun a pris son encensoir. Vayiknu bahem esh, ils ont mis du feu. Veyasimu aleha ktoret, et ils ont déposé l'encens sur l'encensoir. Vayakrivu lifnei Hashem esh zara, et ils ont approché cet encensoir devant Hashem, mais c'est un feu étranger. Asher lot siva otam, qui ne leur avait pas été prescrit. Vatetse esh milifne Hashem. Il y a un feu qui est produit par Hashem. Vatochal otam. Et le feu les a consumés complètement. Vayamutu lifne Hashem. Ils sont morts devant Hashem. Ils sont morts dans le Mishkan. Vayomer Moshe la Aaron. Moshe alors a dit à Aaron, Ou Asher Diber Hashem. C'est ce qu'Hashem m'avait dit, et les morts, et Bikrovai et Kadesh. Je serai sanctifié par mes proches, Valpne Cholaam et Kaved, je serai honoré devant tout le peuple. C'est ce que Moshe a dit à Aaron, Vaidom Aaron. Mais Aaron s'est tu. Aaron n'a rien dit, il n'a pas protesté, il s'est pas plaint, il venait de perdre ses deux fils, enfin deux de ses quatre fils. Donc, Vayikra Moshe, El Michael, Velel Safan, Bnei Uziel, Dod Aaron. Donc, c'est les cousins d'Aaron, plutôt. C'est pas des neveux, c'est les cousins d'Aaron, donc, les petits cousins de Nadav et Abihu. Et Moshe leur a dit, Kirvou, rapprochez-vous, Seu et Achechem, portez vos frères, Me'et Bnei HaKodesh, sortez-les de Mishkan, El Michutz HaMachaneh, hors du camp, sous-entendu, pour les ensevelir, pour les enterrer. Vaïkrevou, et ils ont porté à l'extérieur du Mahané, comme Moshe l'avait dit. Le Sforno, il explique la chose suivante. La question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait là, Nadav et Abihu? Mapitom, ils ont apporté à Esh Zara, un feu étranger. Pourquoi il est ici? Nadav et Abihu sont très très grands, c'est des superstars. Vous avez lu le verset qui dit que Moshe a dit à Aaron, Bikrovaï et Kadesh. Hachem avait dit à Moshe que lors de l'inauguration, je serai sanctifié par mes proches. Moshe Rabbeinu nous dit à Aaron, j'avais cru comprendre, je me suis imaginé que ça voulait dire que moi ou toi, nous allions mourir. Ceux qui allaient faire qu'Hachem va être sanctifié par ceux qui sont proches de lui. Aaron, il a pensé, qui c'est qui est proche de Hachem? C'est Aaron ou moi. Donc il a pensé que lui ou Aaron allait mourir. Alors, je reviendrai sur le pourquoi il a pu penser ça et pourquoi c'est comme pourquoi ça s'appelle sanctifier, je veux dire. Mais alors, je voulais lire avec vous le Sforno. Sforno dit, j'arrive, il est bon lui. Vaikru bnei Aaron, Nadav ve'Avihu, ish machtato. Nadav ve'Avihu, les fils d'Aaron, ont pris chacun son encensoir. Chashvu, ils ont pensé, c'est que Moshe Achar HaTamid, Asher Bo Tishrei Shchina, que Omro Olat Tamid, Vedorotechem, Petach Ohel Moed, Lifnei Hashem, Asher Evaed Lachem Shama, Tavo Haktoret. Kach haya raoui leaktir ktoret chadasha ata al higalot kvod Hashem. El kol ha'am vel ve'al yiridat ha'esh ve'lachen ikrivu lifnei Hashem b'mizbeach apnimi she'ne'emar bo ve'lo e'lu alav toret zara ve'gam im ra'ui la'asot ken im hayu metzuvim b'zeh Khatula soto ata. Asher lot siva otam, que Omram, Hazal dans Maseret Eruvin, Perek Adar, chez Uru alacha bifne Moshe Rabban. Bon, eux, ils ont fait un calcul en se disant qu'en temps normal, quand on apporte le Korban Tamid, immédiatement après le Tamid, on apporte le Ktoret, et à ce moment-là, il y a une manifestation de la présence divine. Et ils ont pensé que bon, c'est ce qu'il faut faire aussi aujourd'hui. Ils ont voulu faire aujourd'hui comme on fait en temps normal par la suite. C'est-à-dire que comme on le fait, comme ils ont vu faire durant les Milouim, ils ont été entraînés, Moshe leur a montré comment il fallait faire. Donc ils ont pensé, voilà, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'était pas. Mais maintenant, c'était pas ça qui était prescrit. Hachem avait dit autrement. Alors, il y a un Chazal qui dit que Nadav et Avihu marchaient derrière Moshe et Aaron et ils disaient, quand est-ce que ces deux vieux-là vont nous passer le relais pour que nous dirigions le clan Israël. Alors, on va mettre bout à bout ce qu'on sait. Moshe dit à Aaron que Nadab et Abihu sont plus proches d'Hachem que Moshe et Aaron. C'est possible, oui. Et je ne pense pas que Moshe a dit quelque chose d'inexact à Aaron pour le consoler. C'est vrai qu'Aaron, il a reçu un coup terrible, mais c'est pas. Moshe va pas raconter des choses qui sont pas vraies à Aaron. Donc s'il lui dit ça, c'est qu'effectivement, Hachem le lui a dit. Enfin, Hachem lui a dit quelque chose que lui, Moshe, avec toute la chokhma de Moshe, il pense. Voilà. Et donc, puisque maintenant c'est eux qui sont morts, donc la phrase d'Hachem qui voulait dire « Je serai sanctifié par ceux qui me sont le plus proche » s'applique à eux. Donc ils sont plus proches que Moshe et Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire plus proche? C'est pas encore très clair. Maintenant, je voudrais revenir sur le fait que Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit ça, Moshe Rabbeinu a pensé que c'est lui qui a les mots, lui ou Aaron. Pourquoi il a pensé ça? C'est quoi? Comment il s'explique ça? Alors, je crois que ce que ça voulait dire, je crois déjà en avoir parlé, pas à tout le monde. Je crois que mon cher Rabbeinu a pensé la chose suivante. On a dit que les Bnei Israël, quand ils sont sortis de Mitzraïm, c'est une naissance. Une naissance qui est précédée par une grossesse. La grossesse, c'est l'esclavage. Par une conception, c'est Yosef en Égypte. Et qui est suivi aussi par Yamsouf, passage de la mer, et par Matan Torah. Ça forme un tout. C'est-à-dire l'enfant qui est né, c'est un bébé qui est né, il faut le prendre complètement en charge. Et pour prendre en charge un enfant qui est né, pour prendre en charge cet enfant qui allait naître, c'est Aaron qui s'en était occupé. C'est lui qui s'est occupé de tout le monde pendant le Galout. Après, c'est Moshe qui s'est occupé. Mais donc, tous les deux se sont occupés, en quelque sorte, d'un enfant, en devenir ou déjà là, mais qui est un nourrisson. Un nourrisson, il faut tout faire pour lui. Lui, il peut rien faire. Mais faire quelque chose, c'est nécessaire tant qu'il n'a pas atteint un certain âge critique, qui est l'âge à partir duquel il va commencer à pouvoir faire les choses par lui-même. À ce moment-là, il n'a plus besoin de la nourrice qui le nourrissait, qui s'occupait de lui. Donc, mon cher Abbé nous a pensé, nous étions nécessaires, Aaron et moi, dans la phase de démarrage du peuple Israël. Et peut-être que maintenant, ce qu'Hachem veut dire, c'est qu'on est arrivé à une phase de vitesse de croisière. Et en vitesse de croisière, on n'a plus besoin de nous. Et donc, nous, on va disparaître. Mais pourquoi il faut qu'on disparaisse? Pourquoi on peut très bien cesser de s'occuper du peuple Israël sans disparaître? Le problème, c'est que mon cher Rabbeinu en particulier, par la volonté du clan Israël. Mon cher Rabbeinu est entre le clan Israël et Hachem. Bon, parce que les Israël ont voulu, tu te mets entre les deux, toi tu reçois d'Hachem et tu te tournes et tu nous enseignes. Donc d'une certaine manière, la Kedusha, c'est une séparation. Le niveau zéro du mot Kedusha, c'est une séparation. Vous connaissez, on sépare ces deux Svarim, là, voilà. Je les ai séparés. C'est le début c'est le niveau zéro de la Kedusha. Alors, ensuite, dans la séparation, je peux en élever un ou l'autre, etc. Et donc, je vais créer des nouvelles distances, des nouvelles séparations, amplifier la séparation. On aurait pu imaginer ça, simplement. Mais en fait, quand Moshe est là, quelque part, la hauteur entre Hachem et le peuple d'Israël, elle est réduite. Parce que Moshe, il partage la hauteur en deux. Donc, quelque part, Hachem n'est pas autant kadosh qu'il pourrait l'être si Moshe n'était pas là. Si Moshe n'était pas là, alors Hachem, il serait à 1 km de hauteur. Et maintenant, si Moshe est là, il est seulement à 500 mètres de hauteur. Moshe réduit la Kedusha. Donc, quand il dit Bikrovaï et Kadesh, je vais être sanctifié par mes proches. Si mes proches, ceux qui sont proches de moi, ils reviennent complètement de mon côté, ils meurent. Non, mais il remonte. Moshe pensait, voilà, bon, je vais monter, donc je ne serai plus du tout entre Hachem et les Bnei Israël. Donc la Kdusha, sera plus grande, en fait. Et tout le monde verra clairement, mieux encore, ma hauteur, mon kavod, etc. Ça, me semble-t-il, c'est le raisonnement de mon cher Amin. Ok, là on comprend que ce que Moshe Rabbeinu a pensé. Mais maintenant, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que Nadab et Abihu sont plus proches. Vous savez qu'ils sont plus proches de Moshe et Aaron. Moshe et Aaron sont proches d'Hachem, très proches d'Hachem. Mais, si vous voulez, ils sont proches d'Hachem de façon ad hoc. Hachem les a fabriqués pour être proches de lui. Hein. Rambam il dit, à ça, Moshe. D'accord, beaucoup, il a fait Moshe pour il l'a fait adéquat pour. C'est un homme, on connaît son papa, sa maman, son frère, sa soeur, etc. Mais il a été fait pour sortir les Bnei Israël de Mitzray. Nadav et Abihu, c'est des enfants normaux. Et eux, ils ont réussi à s'élever. Ils vont prendre la suite de Moshe et d'Aaron. C'est eux qui vont vraiment diriger le plan Israël en vitesse de croisière. Ils y sont arrivés. Donc, ils sont plus proches d'Hachem que Moshe Aaron, au sens où ils se sont fabriqués d'eux-mêmes, si on peut parler comme ça, une proximité avec Hachem. Alors que Moshe Aaron ont été fabriqués ad hoc par Hachem. C'est des gens qui sont arrivés, ils sont comme tout le monde, ils sont issus de la masse, et ils sont les fils d'Aaron, mais ils sont quand même, ils sont dans la masse du clan d'Israël, et ils ont réussi à être, ils se sont construits de telle sorte qu'effectivement, ils sont arrivés à la hauteur, même s'ils sont seulement à la hauteur de Moshe. Mais eux, ils se sont construits tout seuls, sans que Hachem les ait favorisés, en quelque sorte. Donc c'est peut-être ça qui a fait qu'ils étaient, c'est eux qui étaient. Et puis ceux-là, ils se pensaient peut-être tellement proches, d'accord, qu'ils pensaient qu'on n'a plus besoin d'intermédiaires. On est assez proche d'Hachem. On n'a plus besoin d'intermédiaires. On peut être proche d'Hachem. On est capable. Mais Israël avait dit, on n'est pas capable d'être tellement proche, c'est-à-dire qu'Hachem nous parle directement. Eux, ils disent, nous, on peut. Et probablement qu'ils pouvaient vraiment. Seulement, c'était prématuré. C'était pas le moment. Eux, ils ont voulu agir comme on le fait en temps normal, en vitesse de croisière. Mais on est le jour de l'inauguration. Alors, on a dit. On a parlé du feu déjà. Je vous ai dit que les Bnei Israël devaient apporter du feu le matin et en fin d'après-midi, Shacharit et Ben Arbaim, d'apporter du feu pour entretenir du bois, pardon, pour entretenir le feu. Mais ce feu, c'était un feu d'Hachem. En réalité, on n'avait pas besoin d'eux. Mais Hachem a voulu il a voulu que les Bnei Israël soient associés, comme toujours. Et donc, il a dit, vous allez apporter. Et donc, ils apportent. Ils apportent ce feu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a expliqué, Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement dans celui qui reçoit les korbanot, mais il est aussi dans celui qui les fabrique, puisque fabriquer un corban, ça nécessite le feu, et une partie du feu est fournie par Hachem. Donc il fournit aussi le feu qui va le permettre de rendre la viande en question, comestible, quoi, quelque part mangeable, une partie de cette viande va être brûlée sur le misbéa. Donc, le feu est un feu d'Hachem. Seulement toute l'année, on ne voit pas que le feu est un feu d'Hachem. Chose en... comme si le feu était le feu que les hommes allument. Mais en réalité, c'est un feu d'Hachem. Mais à l'inauguration, Hachem voulait qu'on voie que le feu vient du ciel. Pour qu'on le sache, qu'au moins une fois, on a vu que le feu n'était pas un feu uniquement dit par uniquement fabriqué par les hommes, mais que ce feu était aussi un feu d'Hachem. Hachem voulait que ce soit vu. Et donc, il ne voulait pas que les hommes apportent l'encens allumé déjà dans la cuisine, quoi, et qu'on l'amène comme en temps normal. C'est vrai qu'en temps normal, on l'amène l'encens quand on a déjà un nuage de fumée. On va pas faire de la cuisine dans la salle à manger, quoi. Donc, c'est pas devant l'autel qu'on va mettre le feu. Ça brûle d'avant. Quand on a un nuage, c'est le nuage qu'on amène. Alors, ça brûle évidemment, mais c'est l'odeur du parfum en question. C'est pas l'odeur du brûlé du démarrage. Donc, eux, ils ont par kavod pour ça, et que c'est comme ça qu'on allait faire par la suite, ils ont voulu apporter le feu. Mais comme ce n'était pas prévu, comme Hachem avait voulu, voulait faire une démonstration au moment de l'inauguration, alors, quelque part, ils ont inventé, eux, que il y aurait, en quelque sorte, c'est comme s'ils avaient voulu supprimer l'inauguration. L'inauguration, comme toujours, quand vous appuyez sur l'interrupteur, si on avait la possibilité de voir le détail, la tension, elle ne monte pas comme ça, hein. Elle monte comme ça. Il y a une phase de démarrage qui dure ce qui est dur, que ce soit des millisecondes, peu importe, mais il y a toujours une phase de démarrage. Il n'y a pas de, ça n'existe pas dans la nature que ça monte vertical et ensuite horizontal. Ça monte très, avec une pente très forte, mais ça monte petit à petit. Donc, il faut respecter la phase de démarrage. Il faut un système qui va empêcher l'étincelle du démarrage de fiche le feu à la maison. Bon, c'est Hachem qui envoie le feu. Le feu va tomber là où il doit fondre, il doit tomber, etc. Mais là, le feu est tombé. Et il a brûlé tout ce qu'il y avait sur son passage. Il a brûlé Nadab et Abihu, qui était sur le passage du feu qui tombait du ciel. C'est-à-dire, c'est même pas, c'est pas eux, le feu n'est pas tombé sur eux pour les sanctionner. Le feu est tombé comme il voulait tomber, seulement ils sentaient, c'est comme quelqu'un qui se mettrait sous l'averse, quoi. Vous êtes dans la maison, il pleut, sortez, et après, ah, il est mouillé, là. Tu t'es mis sous l'eau. Eux étaient sous le feu parce que ils étaient là où on se tient quand le feu ne vient pas visiblement d'en haut. Quand il vient visible d'en haut, ben il est sur la trajectoire. Ils ont été brûlés. La question qui se pose, c'est quand Hachem a dit Mikrovay Kadesh, est-ce que c'est une voix que Hachem a dit à Moshe, voilà, je sais qu'il va se passer quelque chose et je te le dis de cette manière-là, pas d'une manière qui était compréhensible de façon absolument claire par Moshe, mais bon, maintenant que ça s'est passé, On sait ce que ça voulait dire. Mais est-ce qu'il fallait cela pour l'inauguration? Ou bien c'est de la faute de Nadav et Abihu? Ils ont voulu bien faire, mais c'est quand même de leur faute. Ou bien est-ce que ça ne pouvait pas être autrement? Quand il dit Mikrovaï Kadesh, est-ce qu'Hachem dit je serai sanctifié et ça fait partie de mon programme en quelque sorte? Ou bien c'est le programme tel qu'il est modifié par les hommes et que Hachem connaît ce programme parce qu'il connaît tout? Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Il faudrait essayer d'expliquer, si on veut, il faudrait essayer d'expliquer pourquoi il faudrait que, pourquoi faut-il qu'il y ait cette tristesse au milieu de, c'est quoi, il y aurait eu trop de joie ou quoi? Y a une Gemara qui dit qu'il y avait un mariage où il y avait trop de joie. C'est Rava. Il a pris le vase de poisson, non? Et il l'a recassé, quoi. Il a pris un vase et il l'a cassé pour faire tomber l'extrême joie. Genre, oui, on a cassé le beau vase. Il ne voulait pas, il fallait il a eu l'impression que ça devenait trop. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le droit de se réjouir de cette manière-là après la destruction du Beth Amikdash? Est-ce que c'est inhérent? Bon, il faut se réjouir à un mariage, c'est normal qu'on se réjouisse, quand même pas perdre complètement les pédales. Ou non, je ne sais pas. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas du tout. Là-bas, on nous dit qu'il y avait trop, c'était trop. Mais dans le mariage. Mais ici, je ne sais pas ce que, comment il faut, sur quel ton il faut dire Mikrovaï Kadesh, ça veut dire. Voilà, on va s'arrêter là.